New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
17e section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des 13, deuxième épisode, La Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Armand s'en alla l'homme le plus heureux du monde, et vint tous les soirs chez Madame de Langeais à l'heure qui, par une sorte de convention tacite, lui fut réservée. Il serait fastidieux, et ce serait pour une multitude de jeunes gens qui ont de ces beaux souvenirs une redondance que de faire marcher ce récit pas à pas, comme marchait le poème de ces conversations secrètes dont le cours avance ou retarde au gré d'une femme par une querelle de mots quand le sentiment va trop vite, par une plainte sur les sentiments quand les mots ne répondent plus à sa pensée. Aussi, pour marquer le progrès de cet ouvrage à la Pénélope, peut-être faudrait-il s'en tenir aux expressions matérielles du sentiment. Ainsi, quelques jours après la première rencontre de la duchesse et d'Armand de Montriveau, l'assidu général avait conquis en toute propriété le droit de baiser les insatiables mains de sa maîtresse. Partout où elle et Madame de Langeais se voyait inévitablement Monsieur de Montriveau, que certaines personnes nommèrent en plaisantant le planton de la duchesse. Déjà la position d'Armand lui avait fait des envieux, des jaloux, des ennemis. Madame de Langeais avait atteint à son but. Le marquis se confondait parmi ses nombreux admirateurs et lui servait à humilier ceux qui se vantaient d'être dans ses bonnes grâces en lui donnant publiquement le pas sur tous les autres. Décidément, disait Madame de Sérisy, Monsieur de Montriveau est l'homme que la duchesse distingue le plus. Qui ne sait pas ce que veut dire, à Paris, être distingué par une femme? Les choses étaient ainsi parfaitement en règle. Ce qu'on se plaisait à raconter du général le rendit si redoutable que les jeunes gens habiles abdiquèrent tacitement leurs prétentions sur la duchesse et ne restèrent dans sa sphère que pour exploiter l'importance qu'ils y prenaient, pour se servir de son nom, de sa personne, pour s'arranger au mieux avec certaines puissances du second ordre, enchantées d'enlever un amant à Madame de Langeais. La duchesse avait l'œil assez perspicace pour apercevoir ses désertions et ses traités, dont son orgueil ne lui permettait pas d'être la dupe. Alors elle savait, disait Monsieur le prince de Talleyrand, qu'il l'aimait beaucoup, tirait un regain de vengeance par un mot à deux tranchants dont elle frappait ses épousailles morganatiques. Sa dédaigneuse raillerie ne contribuait pas médiocrement à la faire craindre et passer pour une personne excessivement spirituelle. Elle consolidait ainsi sa réputation de vertu, tout en s'amusant des secrets d'autrui, sans laisser pénétrer les siens. Néanmoins, après 2 mois d'assiduité, elle eut, au fond de l'âme, une sorte de peur vague en voyant que Monsieur de Montriveau ne comprenait rien aux finesses de la coquetterie faubourg saint-germanesque et prenait au sérieux les minauderies parisiennes. « Celui-là, ma chère duchesse, lui avait dit le vieux vidame de Pamiers, est cousin germain des Aigles. Vous ne l'apprivoiserez pas, et il vous emportera dans son air. Si vous n'y prenez garde. » Le lendemain du soir où le rusé vieillard lui avait dit ce mot, dans lequel madame de Langeais craignit de trouver une prophétie, elle essaya de se faire haïr et se montra dure, exigeante, nerveuse, détestable pour Armand, qui la désarma par une douceur angélique. Cette femme connaissait si peu la bonté large des grands caractères qu'elle fut pénétrée des gracieuses plaisanteries par lesquelles ses plaintes furent d'abord accueillies. Elle cherchait une querelle et trouva des preuves d'affection. Alors elle persista. « En quoi, lui dit Armand, un homme qui vous idolâtre a-t-il pu vous déplaire ?»« Vous ne me déplaisez pas, répondit-elle en devenant tout à coup douce et soumise. Mais pourquoi voulez-vous me compromettre ? Vous ne devez être qu'un ami pour moi. Ne le savez-vous pas ? Je voudrais vous voir l'instinct, les délicatesses de l'amitié vraie, afin de ne perdre ni votre estime, ni les plaisirs que je ressens près de vous. » « N'être que votre ami, » s'écria Monsieur de Montriveau, à la tête de qui ce terrible mot donna des secousses électriques. « Sur la foi des heures douces que vous m'accordez, je m'endors et me réveille dans votre cœur. Et aujourd'hui, sans motif, vous vous plaisez gratuitement à tuer les espérances secrètes qui me font vivre. Voulez-vous, après m'avoir fait promettre tant de constance, et avoir montré tant d'horreur pour les femmes qui n'ont que des caprices, me faire entendre que, semblable à toutes les femmes de Paris, vous avez des passions et point d'amour? Pourquoi donc m'avez-vous demandé ma vie, et pourquoi l'avez-vous acceptée? J'ai eu tort, mon ami. Oui, une femme a tort de se laisser aller à de tels enivrements, quand elle ne peut ni ne doit les récompenser. Je comprends. Vous n'avez été que légèrement coquette et... Coquette? Je hais la coquetterie. Être coquette, Armand, mais c'est se promettre à plusieurs hommes et ne pas se donner. Se donner à tous est du libertinage. Voilà ce que j'ai cru comprendre de nos mœurs. Mais se faire mélancolique avec les humoristes, gai avec les insouciants, politique avec les ambitieux, écouter avec une apparente admiration les bavards, s'occuper de guerre avec les militaires, être passionné pour le bien du pays avec les philanthropes, accorder à chacun sa petite dose de flatterie, cela me paraît aussi nécessaire que de mettre des fleurs dans nos cheveux, des diamants, des gants et des vêtements. Le discours est la partie morale de la toilette. Il se prend et se quitte avec la toque à plumes. Nommez-vous ceci coquetterie? Mais je ne vous ai jamais traité comme je traite tout le monde. Avec vous, mon ami, je suis vrai. Je n'ai pas toujours partagé vos idées, et quand vous m'avez convaincu après une discussion, ne m'en avez-vous pas vu toute heureuse? Enfin, je vous aime, mais seulement comme il est permis à une femme religieuse et pure d'aimer. J'ai fait des réflexions. Je suis marié, Armand. Si la manière dont je vis avec Monsieur de Langeais me laisse la disposition de mon cœur, les lois, les convenances m'ont ôté le droit de disposer de ma personne. En quelque rang qu'elle soit placée, une femme déshonorée se voit chassée du monde, et je ne connais encore aucun exemple d'un homme qui ait su ce à quoi l'engager alors ne sacrifice. Bien mieux. La rupture que chacun prévoit entre madame de Beauséant et monsieur d'Arruda, qui, dit-on, épouse mademoiselle de Rochefide, m'a prouvé que ces mêmes sacrifices sont presque toujours les causes de votre abandon. Si vous m'aimiez sincèrement, vous cesseriez de me voir pendant quelque temps. Moi, je dépouillerais pour vous toute vanité. N'est-ce pas quelque chose? Que ne dit-on pas d'une femme à laquelle aucun homme ne s'attache. Ah, elle est sans cœur, sans esprit, sans âme, sans charme surtout. Oh, les coquettes ne me feront grâce de rien. Elles me raviront les qualités qu'elles sont blessées de trouver en moi. Si ma réputation me reste, que m'importe de voir contester mes avantages par des rivales? Elles n'en hériteront certes pas. Allons, mon ami. Donnez quelque chose à qui vous sacrifie tant. venez moins souvent, je ne vous en aimerai pas moins. »
Ah,
répondit Armand avec la profonde ironie d'un cœur blessé, l'amour, selon les écrivassiers, ne se repaît que d'illusions. Rien n'est plus vrai, je le vois, il faut que je m'imagine être aimé. Mais tenez, il est des pensées comme des blessures dont on ne revient pas. Vous étiez une de mes dernières croyances, et je m'aperçois en ce moment que tout est faux, ici-bas. » Elle se prit à sourire. « Oui, reprit Montriveau, d'une voix altérée, votre foi catholique à laquelle vous voulez me convertir est un mensonge que les hommes se font. L'espérance est un mensonge appuyé sur l'avenir. L'orgueil est un mensonge de nous à nous. La pitié, la sagesse, la terreur sont des calculs mensongers. Mon bonheur sera donc aussi quelque mensonge. Il faut que je m'attrape moi-même et consente à toujours donner un louis contre un écu. Si vous pouvez si facilement vous dispenser de me voir, si vous ne m'avouez ni pour ami ni pour amant, vous ne m'aimez pas. Et moi, pauvre fou, je me dis cela, je le sais. Et j'aime. Mais, mon Dieu, mon pauvre Armand, vous vous emportez.
Je m'emporte?
Oui, vous croyez que tout est en question, parce que je vous parle de prudence. Au fond, elle était enchantée de la colère qui débordait dans les yeux de son amant. En ce moment, elle le tourmentait, mais elle le jugeait et remarquait les moindres altérations de sa physionomie. Si le général avait eu le malheur de se montrer généreux sans discussion, comme il arrive quelquefois à certaines âmes candides, il eût été fort banni, pour toujours, atteint et convaincu de ne pas savoir aimer. La plupart des femmes veulent se sentir le moral violé. N'est-ce pas une de leurs flatteries de ne jamais céder qu'à la force? Mais Armand n'était pas assez instruit pour apercevoir le piège habilement préparé par la duchesse. Les hommes forts qui aiment ont tant d'enfance dans l'âme. « Si vous ne voulez que conserver les apparences, dit-il avec naïveté, je suis prêt à... »«
Ne conserver que les apparences ? » s'écria-t-elle en l'interrompant.
« Mais quelles idées vous faites-vous donc de moi ? Vous ai-je donné le moindre droit de penser que je puisse être à vous ?»«
Ah ça, de quoi parlons-nous donc ?» demanda Montriveau.
Mais, monsieur, vous m'effrayez.
Non, pardon, merci, reprit-elle d'un ton froid.
Merci, Armand. Vous m'avertissez à temps d'une imprudence bien involontaire. Croyez-le, mon ami.
Vous savez souffrir, dites-vous.
Moi aussi, je saurai souffrir.
Nous cesserons de nous voir.
Puis, quand l'un et l'autre nous aurons su recouvrer un peu de calme, « eh bien, nous aviserons à nous arranger un bonheur approuvé par le monde. »«
Je suis jeune, Armand.
Un homme sans délicatesse ferait faire bien des sottises et des étourderies à une femme de 24 ans.
Mais vous, vous savez, mon ami, promettez-le-moi. »
La femme de 24 ans, répondit-il, sait calculer. Il s'assit sur le divan du boudoir et resta la tête appuyée dans ses mains.
« M'aimez-vous, madame ? »
demanda-t-il en relevant la tête et lui montrant un visage plein de résolution. « Dites hardiment, oui ou non. » La duchesse fut plus épouvantée de cette interrogation qu'elle ne l'aurait été d'une menace de mort, ruse vulgaire dont s'effraient peu de femmes au XIXe siècle en ne voyant plus les hommes porter l'épée aux côtés. Mais n'y a-t-il pas des effets de cils ? De sourcils, des contractions dans le regard, des tremblements de lèvres qui communiquent la terreur qu'ils expriment si vivement, si magnétiquement.
Ah, dit-elle, si j'étais libre, si...
Et n'est-ce que votre mari qui nous gêne ? S'écria joyeusement le général en se promenant à grands pas dans le boudoir.
Ma chère Antoinette, je possède un pouvoir plus absolu que ne l'est celui de l'autocrate de toutes les Russies. Je m'entends avec la fatalité. Je puis, socialement parlant, l'avancer ou la retarder à ma fantaisie, comme on fait d'une montre. diriger la fatalité dans notre machine politique, n'est-ce pas tout simplement en connaître les rouages? Dans peu, vous serez libre. Souvenez-vous alors de votre promesse. Armand, s'écria-t-elle, que voulez-vous dire? Grand Dieu, croyez-vous que je puisse être le gain d'un crime? Voulez-vous ma mort? Mais vous n'avez donc pas du tout de religion? Moi, je crains Dieu, quoique M. de Langeais m'ait donné le droit de le haïr. Je ne lui souhaite aucun mal. M. de Montriveau, qui battait machinalement la retraite avec ses doigts sur le marbre de la cheminée, se contenta de regarder la duchesse d'un air calme. « Mon ami, dit-elle en continuant, respectez-le. Il ne m'aime pas, il n'est pas bien pour moi, mais j'ai des devoirs à remplir envers lui. Pour éviter les malheurs dont vous le menacez, que ne ferais-je pas ? Écoutez, reprit-elle après une pause, je ne vous parlerai plus de séparation. Vous viendrez ici comme par le passé. Je vous donnerai toujours mon front à baiser. Si je vous le refusais, quelquefois, c'était pure coquetterie, en vérité. Mais entendons-nous, dit-elle en le voyant s'approcher. Vous me permettez d'augmenter le nombre de mes poursuivants, d'en recevoir dans la matinée, encore plus que par le passé. Je veux redoubler de légèreté, je veux vous traiter fort mal en apparence. Feindre une rupture. Vous viendrez un peu moins souvent, et puis après... En disant ces mots, elle se laissa prendre par la taille, parut sentir, ainsi pressée par Montriveau, le plaisir excessif que trouvent la plupart des femmes à cette pression dans laquelle tous les plaisirs de l'amour semblent promis. Puis, elle désirait sans doute se faire faire quelques confidences, car elle se haussa sur la pointe des pieds pour apporter son front sous les lèvres brûlantes d'Armand. Après, reprit Montriveau, vous ne me parlerez plus de votre mari. Vous n'y devez plus penser. » Madame de Langeais garda le silence. « Au moins, dit-elle après une pause expressive, vous ferez tout ce que je voudrai, sans gronder, sans être mauvais. Dites, mon ami, n'avez-vous pas voulu m'effrayer? Allons, avouez-le. Vous êtes trop bon pour jamais concevoir de criminelles pensées, mais auriez-vous donc des secrets que je ne connusse point? Comment pouvez-vous donc maîtriser le sort? Au moment où vous confirmez le don que vous m'avez déjà fait de votre cœur, je suis trop heureux pour bien savoir ce que je vous répondrai. J'ai confiance en vous. Antoinette, je n'aurai ni soupçon, ni fausse joie. Mais si le hasard vous rendait libre, nous sommes unis. Le hasard, Armand, dit-elle en faisant un de ces jolis gestes de tête qui semblent pleins de choses et que ces sortes de femmes jettent à la légère, comme une cantatrice joue avec sa voix. « Le pur hasard, reprit-elle, sachez-le bien, s'il arrivait par votre faute quelque malheur à Monsieur de Langeais, je ne serai jamais à vous. » Ils se séparèrent, comptant l'un et l'autre. La duchesse avait fait un pacte qui lui permettait de prouver au monde, par ses paroles et ses actions, que Monsieur de Montriveau n'était point son amant. Quant à lui, la rusée se promettait bien de le lasser en ne lui accordant d'autres faveurs que celles surprises dans ces petites luttes dont elle arrêtait le cours à son gré. Elle savait si joliment le lendemain révoquer les concessions consenties la veille, elle était si sérieusement déterminée à rester physiquement vertueuse, qu'elle ne voyait aucun danger pour elle à des préliminaires redoutables seulement aux femmes bien éprises. Enfin, une duchesse séparée de son mari offrait peu de choses à l'amour, en lui sacrifiant un mariage annulé depuis longtemps. De son côté, Montriveau, tout heureux d'obtenir la plus vague des promesses et d'écarter à jamais les objections qu'une épouse puise dans la foi conjugale, pour se refuser à l'amour, s'applaudissait d'avoir conquis encore un peu plus de terrain. Aussi, pendant quelque temps, abusa-t-il des droits d'usufruit qui lui avaient été si difficilement octroyés. Plus enfant qu'il ne l'avait jamais été, cet homme se laissait aller à tous les enfantillages qui font du premier amour la fleur de la vie. Il redevenait petit en répandant et son âme et toutes les forces trompées que lui communiquait sa passion sur les mains de cette femme, sur ses cheveux blonds dont il baisait les boucles floconneuses, sur ce front éclatant qu'il voyait pur. Inondé d'amour, vaincu par les effluves magnétiques d'un sentiment si chaud, la duchesse hésitait à faire naître la querelle qui devait les séparer à jamais. Elle était plus femme qu'elle ne le croyait. Cette chétive créature, en essayant de concilier les exigences de la religion avec les vivaces émotions de vanité, avec les semblants de plaisir dont s'affolent les Parisiennes. Chaque dimanche, elle entendait la messe, ne manquait pas un office. Puis, le soir, elle se plongeait dans les enivrantes voluptés que procurent des désirs sans cesse réprimés. Armand et madame de Langeais ressemblaient à ces fakirs de l'Inde qui sont récompensés de leur chasteté par les tentations qu'elle leur donne. Peut-être aussi la duchesse avait-elle fini par résoudre l'amour dans ses caresses fraternelles qui eussent paru sans doute innocentes à tout le monde, mais auxquelles les hardiesses de sa pensée prêtaient d'excessives dépravations. Comment expliquer autrement le mystère incompréhensible de ces perpétuelles fluctuations? Tous les matins, elle se proposait de fermer sa porte au marquis de Montriveau. Puis, tous les soirs, à l'heure dite, elle se laissait charmer par lui. Après une molle défense, elle se faisait moins méchante. Sa conversation devenait douce, onctueuse. Deux amants pouvaient seuls être ainsi. La duchesse déployait son esprit le plus scintillant, ses coquetteries les plus entraînantes. Puis, quand elle avait irrité l'âme et les sens de son amant, s'il la saisissait, elle voulait bien se laisser briser et tordre par lui. Mais elle avait son nec plus ultra de passion. Et, quand il en arrivait là, elle se fâchait toujours si, maîtrisée par sa fougue, il faisait mine d'en franchir les barrières. Aucune femme n'ose se refuser sans motif à l'amour. Rien n'est plus naturel que d'y céder. Aussi, madame de Langeais s'entoura-t-elle bientôt d'une seconde ligne de fortification plus difficile à emporter que ne l'avait été la première. Elle évoqua les terreurs de la religion. Jamais le père de l'Église le plus éloquent ne plaida mieux la cause de Dieu. Jamais les vengeances du Très-Haut ne furent mieux justifiées que par la voix de la duchesse. Elle n'employait ni phrases de sermon, ni amplification de rhétorique. Non, elle avait son pathos à elle. À la plus ardente supplique d'Armand, elle répondait par un regard mouillé de larmes, par un geste qui peignait une affreuse plénitude de sentiments. Elle le faisait taire en lui demandant grâce. Un mot de plus, elle ne voulait pas l'entendre, elle succomberait, et la mort lui semblait préférable à un bonheur criminel. « N'est-ce donc rien que de désobéir à Dieu ?» lui disait-elle en retrouvant une voix affaiblie par des combats intérieurs sur lesquels cette jolie comédienne paraissait prendre difficilement un empire passager. « Les hommes, la terre entière, je vous les sacrifierais volontiers. » Mais vous êtes bien égoïste de me demander tout mon avenir pour un moment de plaisir. Allons, voyons, n'êtes-vous pas heureux ? Ajoutait-elle en lui tendant la main et se montrant à lui dans un négligé qui, certes, offrait à son amant des consolations dont il se payait toujours. Si pour retenir un homme dont l'ardente passion lui donnait des émotions inaccoutumées, ou si, par faiblesse, elle se laissait ravir quelques baisers rapides, aussitôt elle feignait la peur, elle rougissait et bannissait Armand de son canapé au moment où le canapé devenait dangereux pour elle. « Vos plaisirs sont des péchés que j'expie, Armand. Ils me coûtent des pénitences, des remords, » s'écria-t-elle. Quand Montriveau se voyait à deux chaises de cette jupe aristocratique, il se prenait à blasphémer. Il maugréait Dieu. La duchesse se fâchait alors. Mais, mon ami, disait-elle sèchement, je ne comprends pas pourquoi vous refusez de croire en Dieu, car il est impossible de croire aux hommes. Taisez-vous, ne parlez pas ainsi. Vous avez l'âme trop grande pour épouser les sottises du libéralisme, qui a la prétention de tuer Dieu. Les discussions théologiques et politiques lui servaient de douche pour calmer Montriveau, qui ne savait plus revenir à l'amour quand elle excitait sa colère en le jetant à mille lieues de ce boudoir dans les théories de l'absolutisme qu'elle défendait à merveille. Peu de femmes osent être démocrates. Elles sont alors trop en contradiction avec leur despotisme en fait de sentiments. Mais souvent aussi, le général secouait sa crinière, laissait la politique, grondait comme un lion, se battait les flancs, s'élançait sur sa proie, revenait, terrible d'amour, à sa maîtresse, incapable de porter longtemps son cœur et sa pensée en flagrance. Si cette femme se sentait piquée par une fantaisie assez incitante pour la compromettre, elle savait alors sortir de son boudoir. Elle quittait l'air chargé de désirs qu'elle y respirait, venait dans son salon, s'y mettait au piano, chantait les airs les plus délicieux de la musique moderne, et trompait ainsi l'amour des sens qui parfois ne lui faisait pas grâce, mais qu'elle avait la force de vaincre. En ces moments, elle était sublime aux yeux d'Armand. Elle ne feignait pas. Elle était vraie. Et le pauvre Armand se croyait aimé. Cette résistance égoïste la lui faisait prendre pour une sainte et vertueuse créature. Et il se résignait. Et il parlait d'amour platonique, le général d'artillerie. Quand elle eut assez joué de la religion dans son intérêt personnel, Madame de Langeais en joua dans celui d'Armand. Elle voulut le ramener à des sentiments chrétiens. Elle lui refit le génie du christianisme à l'usage des militaires. Montriveau s'impatienta, trouva son joug pesant. Oh, alors, par esprit de contradiction, elle lui cassa la tête de Dieu pour voir si Dieu la débarrasserait d'un homme qui allait à son but avec une constance dont elle commençait à s'effrayer. D'ailleurs, elle se plaisait à prolonger toute querelle qui paraissait éterniser la lutte morale, après laquelle venait une lutte matérielle, bien autrement dangereuse. Mais si l'opposition faite au nom des lois du mariage représente l'époque civile de cette guerre sentimentale, celle-ci en constituerait l'époque religieuse, et elle eut, comme la précédente, une crise après laquelle sa rigueur devait décroître. Un soir, Armand, venu fortuitement de très bonne heure, trouva M. l'abbé Gondran, directeur de conscience de Mme de Langeais, établi dans un fauteuil au coin de la cheminée, comme un homme en train de digérer son dîner et les jolis péchés de sa pénitente. La vue de cet homme au teint frais et reposé, dont le front était calme, la bouche ascétique, le regard malicieusement inquisiteur, qui avait dans son maintien une véritable noblesse ecclésiastique, et déjà dans son vêtement violet épiscopal, rembrunit singulièrement le visage de Montriveau qui ne salua personne et resta silencieux. Sorti de son amour, le général ne manquait pas de tact. Il devina donc, en échangeant quelques regards avec le futur évêque, que cet homme était le promoteur des difficultés dont s'armait, pour lui, l'amour de la duchesse. Qu'un ambitieux abbé bricola et retint le bonheur d'un homme trempé comme l'était Montriveau? Cette pensée bouillonna sur sa face, lui crispa les doigts, le fit lever, marcher, piétiner. Puis, quand il revenait à sa place avec l'intention de faire un éclat, un seul regard de la duchesse suffisait à le calmer. Madame de Langeais, nullement embarrassée du noir silence de son amant, par lequel toute autre femme eût été gênée, continuait à converser fort spirituellement avec M. Gondran sur la nécessité de rétablir la religion dans son ancienne splendeur. Elle exprimait mieux que ne le faisait l'abbé pourquoi l'Église devait être un pouvoir à la fois temporel et spirituel, et regrettait que la chambre des pairs n'eût pas encore son banc des évêques, comme la chambre des lords avait le sien. Néanmoins, l'abbé, sachant que le carême lui permettait de prendre sa revanche, céda la place au général et sortit. À peine la duchesse se leva-t-elle pour rendre à son directeur l'humble révérence qu'elle en reçut, tant elle était intriguée par l'attitude de Montriveau. « Qu'avez-vous, mon ami ?»«
Mais j'ai votre abbé sur l'estomac. »«
Pourquoi ne preniez-vous pas un livre ?» lui dit-elle, sans se soucier d'être ou non entendue par l'abbé qui fermait la porte. Montriveau resta muet pendant un moment, car la duchesse accompagna ce mot d'un geste qui en relevait encore la profonde impertinence. « Ma chère Antoinette, je vous remercie de donner à l'amour le pas sur l'église. » Mais de grâce, souffrez que je vous adresse une question.
Ah, vous m'interrogez.
Je le veux bien, reprit-elle. N'êtes-vous pas mon ami?
Je puis certes vous montrer le fond de mon cœur.
Vous n'y verrez qu'une image.
Parlez-vous à cet homme de notre amour?
Il est mon confesseur.
Sait-il que je vous aime?
Monsieur de Montriveau, vous ne prétendez pas, je pense, pénétrer les secrets de ma confession.
Ainsi cet homme connaît toutes nos querelles et mon amour pour vous.
Un homme, monsieur.
Dites Dieu.
Dieu, Dieu, je dois être seul dans votre cœur.
Mais laissez Dieu tranquille là où il est, pour l'amour de lui et de moi.
Madame, vous n'irez plus à confesse.
Où?
Où?
Dit-elle en souriant.
Où je ne reviendrai plus ici.
Partez, Armand.
Adieu.
Adieu pour jamais.
Elle se leva et s'en alla dans son boudoir sans jeter un seul regard à Montriveau, qui resta debout, la main appuyée sur une chaise. Combien de temps resta-t-il ainsi?
Jamais il ne le sut lui-même.
L'âme a le pouvoir inconnu d'étendre comme de resserrer l'espace. Il ouvrit la porte du boudoir, il y faisait nuit. Une voix faible devint forte pour dire aigrement:
« Je n'ai pas sonné. D'ailleurs, pourquoi donc entrer sans ordre?
Suzette, laissez-moi. »«
Tu souffres donc ?» s'écria Montriveau.
« Levez-vous, monsieur, reprit-elle en sonnant, et sortez d'ici, au moins pour un moment. »«
Madame la duchesse demande de la lumière, dit-il au valet de chambre qui vint dans le boudoir y allumer les bougies. » Quand les deux amants furent seuls, Madame de Langeais demeura couchée sur son divan, muette, immobile, absolument comme si Montriveau n'eût pas été là.
« Cher, dit-il avec un accent de douleur et de bonté sublime, j'ai tort. Je ne te voudrais certes pas sans religion.
Il est heureux, répliqua-t-elle sans le regarder, d'une voix dure, que vous reconnaissiez la nécessité de la conscience.
Je vous remercie pour Dieu. »
Ici, le général, abattu par l'inclémence de cette femme qui savait devenir à volonté une étrangère ou une sœur pour lui, fit, vers la porte, un pas de désespoir et allait l'abandonner à jamais sans lui dire un seul mot. Il souffrait, et la duchesse riait en elle-même des souffrances causées par une torture morale bien plus cruelle que ne l'était jadis la torture judiciaire. Mais cet homme n'était pas maître de s'en aller. En toute espèce de crise, une femme est en quelque sorte grosse d'une certaine quantité de paroles, et quand elle ne les a pas dites, elle éprouve la sensation que donne la vue d'une chose incomplète.
Madame de Langeais, qui n'avait pas tout dit, reprit la parole.
« Nous n'avons pas les mêmes convictions, général. J'en suis peiné. Il serait affreux pour la femme de ne pas croire à une religion qui permet d'aimer au-delà du tombeau. Je mets à part les sentiments chrétiens. Vous ne les comprenez pas. Laissez-moi vous parler seulement des convenances. Voulez-vous interdire à une femme de la cour la sainte table quand il est reçu de s'en approcher à Pâques?
Mais il faut pourtant bien savoir faire quelque chose pour son parti.
Les libéraux ne tueront pas, malgré leur désir, le sentiment religieux. La religion sera toujours une nécessité politique. Vous chargeriez-vous de gouverner un peuple de raisonneurs?
Napoléon ne l'osait pas. Il persécutait les idéologues. Pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des sentiments. acceptons donc la religion catholique avec toutes ses conséquences. Si nous voulons que la France aille à la messe, ne devons-nous pas commencer par y aller nous-mêmes ?
La religion, Armand, est, vous le voyez, le lien des principes conservateurs qui permettent aux riches de vivre tranquilles. La religion est intimement liée à la propriété. Il est certes plus beau de conduire les peuples par des idées morales que par des échafauds. Comme au temps de la Terreur, seul moyen que votre détestable révolution ait inventé pour se faire obéir. Le prêtre et le roi, mais c'est vous, c'est moi, c'est la princesse, ma voisine. C'est en un mot tous les intérêts des honnêtes gens personnifiés. Allons, mon ami, veuillez donc être de votre parti, vous qui pourriez en devenir le Sylla. Si vous aviez la moindre ambition. J'ignore la politique. Moi, j'en raisonne par sentiment. Mais j'en sais néanmoins assez pour deviner que la société serait renversée si l'on en faisait mettre à tout moment les bases en question. Si votre cour, si votre gouvernement pensent ainsi, vous me faites pitié, dit Montriveau. La Restauration, madame, doit se dire, comme Catherine de Médicis, quand elle crut la bataille de Dreux perdue, « Eh bien, nous irons au prêche. » Or, 1815 est votre bataille de Dreux. Comme le trône de ce temps-là, vous l'avez gagné en fait, mais perdu en droit. Le protestantisme politique est victorieux dans les esprits. Si vous ne voulez pas faire un édit de Nantes, ou si, le faisant, vous le révoquez, si vous êtes un jour atteint et convaincu de ne plus vouloir de la charte, qui n'est qu'un gage donné au maintien des intérêts révolutionnaires, la révolution se relèvera terrible et ne vous donnera qu'un seul coup. Ce n'est pas elle qui sortira de France. Elle y est le sol même. Les hommes se laissent tuer, mais non les intérêts. Eh, mon Dieu, que nous font la France, le trône, la légitimité, le monde entier. Ce sont des billevesées auprès de mon bonheur. Régnez, soyez renversés, peu m'importe. Où suis-je donc ?
Mon ami, vous êtes dans le boudoir de madame la duchesse de Langeais.
Non, non, plus de duchesse, plus de Langeais, je suis près de ma chère Antoinette. Voulez-vous me faire le plaisir de rester où vous êtes ? Dit-elle en riant et en le repoussant, mais sans violence.
Vous ne m'avez donc jamais aimé ? Dit-il avec une rage qui jaillit de ses yeux par des éclairs.
Non, mon ami. Ce non valait un oui. Je suis un grand sot, reprit-il en baisant la main de cette terrible reine redevenue femme.
Antoinette, reprit-il, s'appuyant la tête sur ses pieds, tu es trop chastement tendre pour dire nos bonheurs à qui que ce soit au monde.
Ah, vous êtes un grand fou, dit-elle en se levant par un mouvement gracieux, quoique vif, et sans ajouter une parole, elle courut dans le salon.
Qu'a-t-elle donc ? Demanda le général, qui ne savait pas deviner la puissance des commotions que sa tête brûlante avait électriquement communiquées des pieds à la tête de sa maîtresse. Au moment où il arrivait furieux dans le salon, il y entendit de célestes accords. La duchesse était à son piano. Les hommes de science ou de poésie qui peuvent à la fois comprendre et jouir sans que la réflexion nuise à leur plaisir, sentent que l'alphabet et la phraséologie musicale sont les instruments intimes du musicien, comme le bois ou le cuivre sont ceux de l'exécutant. Pour eux, il existe une musique à part au fond de la double expression de ce sensuel langage des âmes.
Andiamo, mio ben, peut arracher des larmes de joie ou faire rire de pitié, selon la cantatrice. Souvent, ça et là, dans le monde, une jeune fille expirant sous le poids d'une peine inconnue, un homme dont l'âme vibre sous les pincements d'une passion, prennent un thème musical et s'entendent avec le ciel ou se parlent à eux-mêmes, dans quelque sublime mélodie, espèce de poème perdu. Or, le général écoutait en ce moment une de ces poésies inconnues autant que peut l'être la plainte solitaire d'un oiseau mort sans compagne, dans une forêt vierge.
Mon Dieu, que jouez-vous donc là ? Dit-il d'une voix émue. Le prélude d'une romance appelée, je crois, « Fleuve du Tage ». Je ne savais pas ce que pouvait être une musique de piano, reprit-il. « Eh, mon ami, dit-elle en lui jetant pour la première fois un regard de femme amoureuse, vous ne savez pas non plus que je vous aime, que vous me faites horriblement souffrir et qu'il faut bien que je me plaigne sans trop me faire comprendre, autrement je serais à vous. Mais vous ne voyez rien. Et vous ne voulez pas me rendre heureux. Armand, je mourrai de douleur le lendemain. » Le général sortit brusquement, mais quand il se trouva dans la rue, il essuya deux larmes qu'il avait eu la force de contenir dans ses yeux. Fin de la 17e section. Dix-huitième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1. Histoire des 13, deuxième épisode, La Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. La religion dura 3 mois. Ce terme expiré, la duchesse, ennuyée de ses redites, livra Dieu pieds et poings liés à son amant. Peut-être craignait-elle, à force de parler éternité, de perpétuer l'amour du général en ce monde et dans l'autre. Pour l'honneur de cette femme, il est nécessaire de la croire vierge, même de cœur, autrement elle serait trop horrible. Encore bien loin de cet âge où, mutuellement, l'homme et la femme se trouvent trop près de l'avenir pour perdre du temps et se chicaner leur jouissance, elle en était, sans doute, non pas à son premier amour, mais à ses premiers plaisirs. Faute de pouvoir comparer le bien au mal, faute de souffrances qui lui eussent appris la valeur des trésors jetés à ses pieds, elle s'en jouait. Ne connaissant pas les éclatantes délices de la lumière, elle se complaisait à rester dans les ténèbres. Armand, qui commençait à entrevoir cette bizarre situation, espérait dans la première parole de la nature. Il pensait, tous les soirs, en sortant de chez Madame de Langeais, qu'une femme n'acceptait pas pendant 7 mois les soins d'un homme et les preuves d'amour les plus tendres, les plus délicates, ne s'abandonnait pas aux exigences superficielles d'une passion pour la tromper en un moment. Et il attendait patiemment la saison du soleil, ne doutant pas qu'il n'en recueillît les fruits dans leur primeur. Il avait parfaitement conçu les scrupules de la femme mariée et les scrupules religieux. Il était même joyeux de ses combats. Il trouvait la duchesse pudique là où elle n'était qu'horriblement coquette, et il ne l'aurait pas voulu autrement. Il aimait donc à lui voir inventer des obstacles. N'en triomphait-il pas graduellement ? Et chaque triomphe n'augmentait pas la faible somme des privautés amoureuses longtemps défendues, puis concédées par elle, avec tous les semblants de l'amour ? Mais il avait si bien dégusté les menues et processives conquêtes dont se repaissent les amants timides, qu'elles étaient devenues des habitudes pour lui. En fait d'obstacle, il n'avait donc plus que ses propres terreurs à vaincre, car il ne voyait plus à son bonheur d'autre empêchement que les caprices de celle qui se laissait appeler Antoinette. Il résolut alors de vouloir plus, de vouloir tout. Embarrassé comme un amant jeune encore qui n'ose pas croire à l'abaissement de son idole, il hésita longtemps et connut ces terribles réactions de cœur, ces volontés bien arrêtées qu'un mot anéantit, ces décisions prises qui expirent au seuil d'une porte. Il se méprisait de ne pas avoir la force de dire un mot, et ne le disait pas. Néanmoins, un soir, il procéda par une sombre mélancolie à la demande farouche de ses droits illégalement légitimes. La duchesse n'attendit pas la requête de son esclave pour en deviner le désir. Un désir d'homme est-il jamais secret ? Les femmes n'ont-elles pas toutes la science infuse de certains bouleversements de physionomie ?
Et quoi ? Voulez-vous cesser d'être mon ami ? Dit-elle en l'interrompant au premier mot et lui jetant des regards embellis par une divine rougeur qui coula comme un sang nouveau sur son teint diaphane.
Pour me récompenser de mes générosités, vous voulez me déshonorer ?
Réfléchissez donc un peu.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi.
Je pense toujours à nous.
Il existe une probité de femme à laquelle nous ne devons pas plus manquer que vous ne devez faillir à l'honneur.
Moi, je ne sais pas tromper.
Si je suis à vous, je ne pourrai plus être en aucune manière la femme de Monsieur de Langeais.
Vous exigez donc le sacrifice de ma position, de mon rang, de ma vie, pour un douteux amour qui n'a pas eu 7 mois de patience ?
Comment ? Déjà vous voudriez me ravir la libre disposition de moi-même ?
Non, non, ne me parlez plus ainsi.
Non, ne me dites rien.
Je ne veux pas, je ne peux pas vous entendre.
Là, Madame de Langeais prit sa coiffure à 2 mains pour reporter en arrière les touffes de boucles qui lui échauffaient le front, et parut très animée.
Vous venez chez une faible créature avec des calculs bien arrêtés, en vous disant « Elle me parlera de son mari pendant un certain temps, puis de Dieu, puis des suites inévitables de l'amour. Mais j'userai, j'abuserai de l'influence que j'aurai conquise. Je me rendrai nécessaire. J'aurai pour moi les liens de l'habitude, les arrangements tout faits par le public. Enfin, quand le monde aura fini par accepter notre liaison, je serai le maître de cette femme.
Soyez franc, ce sont là vos pensées.
Ah, vous calculez, et vous dites aimer. Fi, vous êtes amoureux.
Ah, je le crois bien.
Vous me désirez, et voulez m'avoir pour maîtresse, voilà tout.
Eh bien non, la duchesse de Langeais ne descendra pas jusque-là.
Que de naïves bourgeoises soient les dupes de vos faussetés, moi je ne le serai jamais.
Rien ne m'assure de votre amour.
Vous me parlez de ma beauté, je puis devenir laid dans 6 mois, comme la chère princesse, ma voisine.
Vous êtes ravi de mon esprit, de ma grâce.
Mon Dieu, vous vous y accoutumerez comme vous vous accoutumeriez au plaisir.
Ne vous êtes-vous pas habitué depuis quelques mois aux faveurs que j'ai eu la faiblesse de vous accorder ?
Quand je serai perdu un jour, vous ne me donnerez d'autre raison de votre changement que le mot décisif. Je n'aime plus.
Rang, fortune, honneur, toute la duchesse de Langeais se sera engloutie dans une espérance trompée.
J'aurai des enfants qui attesteront ma honte et...
Mais, reprit-elle en laissant échapper un geste d'impatience,
je suis trop bonne de vous expliquer ce que vous savez mieux que moi.
Allons, restons-en là.
Je suis trop heureuse de pouvoir encore briser les liens que vous croyez si forts.
Y a-t-il donc quelque chose de si héroïque à être venu à l'hôtel de Langeais passer tous les soirs quelques instants auprès d'une femme dont le babil vous plaisait, de laquelle vous vous amusiez comme d'un joujou.
Mais quelques jeunes fats arrivent chez moi de 3 heures à 5 heures, aussi régulièrement que vous venez le soir.
Ceux-là sont donc bien généreux.
Je me moque d'eux. Ils supportent assez tranquillement mes boutades, mes impertinences, et me font rire.
Tandis que vous, à qui j'accorde les plus précieux trésors de mon âme, vous voulez me perdre et me causer 1000 ennuis ?
Taisez-vous.
Assez, assez, dit-elle en le voyant prêt à parler.
Vous n'avez ni cœur, ni âme, ni délicatesse.
Je sais ce que vous voulez me dire.
Eh bien oui, j'aime mieux passer à vos yeux pour une femme froide, insensible, sans dévouement, sans cœur même, que de passer aux yeux du monde pour une femme ordinaire, que d'être condamnée à des peines éternelles, après avoir été condamné à vos prétendus plaisirs, qui vous lasseront certainement.
Votre égoïste amour ne vaut pas tant de sacrifices. »
Ces paroles représentent imparfaitement celles que fredonna la duchesse avec la vive prolixité d'une serinette. Certes,
Elle put parler longtemps. Le pauvre Armand ne posait pour toute réponse à ce torrent de notes flûtées qu'un silence plein de sentiments horribles. Pour la première fois, il entrevoyait la coquetterie de cette femme et devinait instinctivement que l'amour dévoué, l'amour partagé, ne calculait pas, ne raisonnait pas ainsi chez une femme vraie. Puis il éprouvait une sorte de honte en se souvenant d'avoir involontairement fait les calculs dont les odieuses pensées lui étaient reprochées. Puis, en s'examinant avec une bonne foi tout angélique, il ne trouvait que de l'égoïsme dans ses paroles, dans ses idées, dans ses réponses conçues et non exprimées. Il se donna tort et, dans son désespoir, il eut l'envie de se précipiter par la fenêtre. Le « moi » le tuer. Que dire, en effet, à une femme qui ne croit pas à l'amour ? Laissez-moi vous prouver combien je vous aime. Toujours moi. Montriveau ne savait pas comment ces sortes de circonstances le savent les héros de boudoir, imiter le rude logicien marchant devant les Pyrrhoniens, qui niait le mouvement. Cet homme audacieux manquait précisément de l'audace habituelle aux amants qui connaissent les formules de l'algèbre féminine. Si tant de femmes, et même les plus vertueuses, sont la proie des gens habiles en amour, auxquels le vulgaire donne un méchant nom, peut-être est-ce parce qu'ils sont de grands prouveurs, et que l'amour veut, malgré cette délicieuse poésie de sentiments, un peu plus de géométrie qu'on ne le pense. Or, la duchesse et Montriveau se ressemblaient en ce point qu'ils étaient également inexperts en amour. Elle en connaissait très peu la théorie, elle en ignorait la pratique, ne sentait rien et réfléchissait à tout. Montriveau connaissait peu de pratique, ignorait la théorie et sentait trop pour réfléchir. Tous deux subissaient donc le malheur de cette situation bizarre. En ce moment suprême, ces myriades de pensées pouvaient se réduire à celle-ci. « Laissez-vous posséder !» Phrase horriblement égoïste pour une femme chez qui ces mots n'apportaient aucun souvenir et ne réveillaient aucune image. Néanmoins, il fallait répondre. Quoiqu'il eût le sang fouetté par ces petites phrases en forme de flèche, bien aiguës, bien froides, bien acérées, décochées coup sur coup, Montriveau devait aussi cacher sa rage pour ne pas tout perdre par une extravagance. Madame la Duchesse, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour la femme une autre façon de confirmer le don de son cœur que d'y ajouter celui de sa personne. Le haut prix que vous attachez à vous-même me montre que je ne dois pas en attacher un moindre. Si vous me donnez votre âme et tous vos sentiments, comme vous me le dites, qu'importe donc le reste? D'ailleurs, si mon bonheur vous est un si pénible sacrifice, n'en parlons plus. Seulement, vous pardonnerez à un homme de cœur de se trouver humilié en se voyant pris pour un épagneul. » Le ton de cette dernière phrase eut peut-être effrayé d'autres femmes, mais quand une de ces porte-jupes s'est mise au-dessus de tout en se laissant diviniser, aucun pouvoir ici-bas n'est orgueilleux comme elle sait être orgueilleuse. Monsieur le marquis, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour l'homme une plus noble façon de confirmer le don de son cœur que la manifestation de désirs prodigieusement vulgaires. Si, en donnant notre personne, nous devenons esclaves, un homme ne s'engage à rien en nous acceptant. Qui m'assurera que je serai toujours aimé? L'amour que je déploierai à tout moment pour vous, mieux attaché à moi, serait peut-être une raison d'être abandonné. Je ne veux pas faire une seconde édition de Madame de Beauséant. Sait-on jamais ce qui vous retient près de nous? Notre constante froideur est le secret de la constante passion de quelques-uns d'entre vous. À d'autres, il faut un dévouement perpétuel, une adoration de tous les moments. À ceux-ci, la douceur, à cela le despotisme. Aucune femme n'a encore pu bien déchiffrer vos cœurs. Il y eut une pause après laquelle elle changea de ton. Enfin, mon ami, vous ne pouvez pas empêcher une femme de trembler à cette question. serai-je aimé toujours ? Quelque dure qu'elle soit, mes paroles me sont dictées par la crainte de vous perdre. Mon Dieu, ce n'est pas moi, cher, qui parle, mais la raison. Et comment s'en trouve-t-il chez une personne aussi folle que je le suis ? En vérité, je n'en sais rien. » Entendre cette réponse commencée par la plus déchirante ironie et terminée par les accents les plus mélodieux dont une femme se soit servie pour peindre l'amour dans son ingénuité, n'était-ce pas aller en un moment du martyr au ciel ? Montriveau pâlit et tomba pour la première fois de sa vie aux genoux d'une femme. Il baisa le bas de la robe de la duchesse, les pieds, les genoux, mais pour l'honneur du faubourg Saint-Germain, il est nécessaire de ne pas révéler les mystères de ces boudoirs où l'on voulait tout de l'amour, moins ce qui pouvait attester l'amour. « Chère Antoinette, s'écria Montriveau dans le délire où le plongea l'entier abandon de la duchesse, qui se crut généreuse en se laissant adorer. « Oui, tu as raison. Je ne veux pas que tu conserves de doute. En ce moment, je tremble aussi d'être quitté par l'ange de ma vie, et je voudrais inventer pour nous des liens indissolubles. » « Ah ! » dit-elle tout bas. « Tu vois, j'ai donc raison. » « Laisse-moi finir, » reprit Armand. « Je vais d'un seul mot dissiper toutes tes craintes. Écoute, si je t'abandonnais, je mériterais 1000 morts. Sois toute à moi. Je te donnerais le droit de me tuer si je te trahissais. J'écrirai moi-même une lettre par laquelle je déclarerai certains motifs qui me contraindraient à me tuer. Enfin, j'y mettrai mes dernières dispositions. Tu posséderas ce testament qui légitimerait ma mort et pourras ainsi te venger sans avoir rien à craindre de Dieu ni des hommes. Ai-je besoin de cette lettre? Si j'avais perdu ton amour, que me ferait la vie? Si je voulais te tuer, ne saurais-je pas te suivre? Non, je te remercie de l'idée, mais je ne veux pas de la lettre. Ne pourrais-je pas croire que tu m'es fidèle par crainte, ou le danger d'une infidélité ne pourrait-il pas être un attrait pour celui qui livre ainsi sa vie? Armand, ce que je demande est seul difficile à faire. Et que veux-tu donc? Ton obéissance et ma liberté. Mon Dieu, s'écria-t-il, je suis comme un enfant. Un enfant volontaire et bien gâté, dit-elle en caressant l'épaisse chevelure de cette tête qu'elle garda sur ses genoux. Oh oui, bien plus aimé qu'il ne le croit, et cependant bien désobéissant. Pourquoi ne pas rester ainsi? Pourquoi ne pas me sacrifier des désirs qui m'offensent? Pourquoi ne pas accepter ce que j'accorde, si c'est tout ce que je puisse honnêtement octroyer? N'êtes-vous donc pas heureux? Oh oui, dit-il, je suis heureux quand je n'ai point de doute. Antoinette, en amour, douter, n'est-ce pas à mourir? Et il se montra tout à coup ce qu'il était et ce que sont tous les hommes sous le feu des désirs, éloquent, insinuant. Après avoir goûté les plaisirs permis, sans doute, par un secret jésuitique ou case, la duchesse éprouva ces émotions cérébrales dont l'habitude lui avait rendu l'amour d'Armand nécessaire autant que l'était le monde, le bal et l'opéra. Se voir adorée par un homme dont la supériorité, le caractère, inspire de l'effroi. En faire un enfant, jouer comme Poppée, avec un Néron. Beaucoup de femmes, comme firent les épouses d'Henri VIII, ont payé ce périlleux bonheur de tout le sang de leurs veines. Eh bien, pressentiment bizarre, en lui livrant les jolis cheveux blanchement blonds dans lesquels il aimait à promener ses doigts, en sentant la petite main de cet homme vraiment grand la presser, en jouant elle-même avec les touffes noires de sa chevelure, dans ce boudoir où elle régnait. La duchesse se disait, « Cet homme est capable de me tuer. » S'il s'aperçoit que je m'amuse de lui. Monsieur de Montriveau resta jusqu'à 2 heures du matin près de sa maîtresse, qui, dès ce moment, ne lui parut plus ni une duchesse, ni une Navarreins. Antoinette avait poussé le déguisement jusqu'à paraître femme. Pendant cette délicieuse soirée, la plus douce préface que jamais parisienne ait faite pour ce que le monde appelle une faute, il fut permis au général de voir en elle, malgré les minauderies d'une pudeur jouée, toute la beauté des jeunes filles. Il put penser avec quelque raison que tant de querelles capricieuses formaient des voiles avec lesquels une âme céleste s'était vêtue, et qu'il fallait lever un à un, comme ceux dont elle enveloppait son adorable personne. La duchesse fut pour lui la plus naïve, la plus ingénue des maîtresses, et il en fit la femme de son choix. Il s'en alla, tout heureux de l'avoir enfin amenée à lui donner tant de gages d'amour, qu'il lui semblait impossible de ne pas être désormais, pour elle, un époux secret dont le choix était approuvé par Dieu. Dans cette pensée, avec la candeur de ceux qui sentent toutes les obligations de l'amour en savourant les plaisirs, Armand revint chez lui lentement. Il suivit les quais afin de voir le plus grand espace possible de ciel. Il voulait élargir le firmament et la nature en se trouvant le cœur agrandi. Ses poumons lui paraissaient aspirer plus d'air qu'il n'en prenait la veille. En marchant, il s'interrogeait et se promettait d'aimer si religieusement cette femme qu'elle pût trouver tous les jours une absolution de ses fautes sociales dans un constant bonheur. Douce agitation d'une vie pleine. Les hommes qui ont assez de force pour teindre leur âme d'un sentiment unique ressentent des jouissances infinies en contemplant par échappée toute une vie incessamment ardente, comme certains religieux pouvaient contempler la lumière divine dans leurs extases. Sans cette croyance en sa perpétuité, l'amour ne serait rien. La constance le grandit. Ce fut ainsi qu'en s'en allant en proie à son bonheur, Montriveau comprenait la passion. Nous sommes donc l'un à l'autre à jamais. Cette pensée était pour cet homme un talisman qui réalisait les vœux de sa vie. Il ne se demandait pas si la duchesse changerait, si cet amour durerait. Non, il avait la foi, l'une des vertus sans laquelle il n'y a pas d'avenir chrétien, mais qui peut-être est encore plus nécessaire aux sociétés. Pour la première fois, il concevait la vie par les sentiments, lui qui n'avait encore vécu que par l'action la plus exorbitante des forces humaines, le dévouement quasi corporel du soldat. Fin de la 18e section. Dix-neuvième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des 13, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, Monsieur de Montriveau se rendit de bonne heure au faubourg Saint-Germain. Il avait un rendez-vous dans une maison voisine de l'hôtel de Langeais, où, quand ses affaires furent faites, il alla comme on va chez soi. Le général marchait alors de compagnie avec un homme pour lequel il paraissait avoir une sorte d'aversion quand il le rencontrait dans les salons. Cet homme était le marquis de Ronquerolles, dont la réputation devint si grande dans les boudoirs de Paris. Homme d'esprit, de talent, homme de courage surtout, et qui donnait le ton à toute la jeunesse de Paris. Un galant homme dont les succès et l'expérience étaient également enviés et auquel ne manquaient ni la fortune ni la naissance, qui ajoute à Paris tant de lustre aux qualités des gens à la mode. « Où vas-tu ? » dit Monsieur de Ronquerolles à Montriveau. « Chez Madame de Langeais. »« Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu t'es laissé prendre à sa glu. Tu perds chez elle un amour que tu pourrais bien mieux employer ailleurs. » J'avais à te donner dans la banque 10 femmes qui valent 1000 fois mieux que cette courtisane titrée, qui fait avec sa tête ce que d'autres femmes plus franches font. Que dis-tu là, mon cher ? Dit Armand en interrompant Ronquerolles. La duchesse est un ange de candeur. Ronquerolles se prit à rire. Puisque tu en es là, mon cher, dit-il, je dois t'éclairer. Un seul mot. Entre nous, il est sans conséquence. « La duchesse t'appartient-elle ? En ce cas, je n'aurai rien à dire. Allons, fais-moi tes confidences. Il s'agit de ne pas perdre ton temps à greffer ta belle âme sur une nature ingrate qui doit laisser avorter les espérances de ta culture. »
Quand Armand eut naïvement fait une espèce d'état de situation dans lequel il mentionna minutieusement les droits qu'il avait si péniblement obtenus, Ronquerolles partit d'un éclat de rire si cruel qu'à tout autre il aurait coûté la vie. Mais, à voir de quelle manière ces deux êtres se regardaient et se parlaient seuls au coin d'un mur, aussi loin des hommes qu'ils eussent pu l'être au milieu d'un désert, il était facile de présumer qu'une amitié sans bornes les unissait et qu'aucun intérêt humain ne pouvait les brouiller.
« Mon cher Armand, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'embarrassais de la duchesse ? Je t'aurais donné quelques conseils qui t'auraient fait mener à bien cette intrigue. Apprends d'abord que les femmes de notre faubourg aiment, comme toutes les autres, à se baigner dans l'amour. Mais elles veulent posséder sans être possédées. Elles ont transigé avec la nature. La jurisprudence de la paroisse leur a presque tout permis, moins le péché positif. Les friandises dont te régale ta jolie duchesse sont des péchés véniels dont elle se lave dans les eaux de la pénitence. Mais si tu avais l'impertinence de vouloir sérieusement le grand péché mortel, auquel tu dois naturellement attacher la plus haute importance, tu verrais avec quel profond dédain la porte du boudoir et de l'hôtel te serait incontinent fermée. La tendre Antoinette aurait tout oublié. Tu serais moins que zéro pour elle. Tes baisers, mon cher ami, seraient essuyés avec l'indifférence qu'une femme met aux choses de sa toilette. La duchesse épongerait l'amour sur ses joues comme elle en note le rouge. Nous connaissons ses sorties de femme, la parisienne pure. As-tu jamais vu dans les rues une grisette trottant menue? Sa tête vaut un tableau. Joli bonnet, joues fraîches, cheveux coquets, fin sourire, le reste est à peine soigné. N'en est-ce pas bien le portrait? Voilà la parisienne, elle sait que sa tête seule sera vue. À sa tête, tous les soins, les parures, les vanités. Eh bien, la duchesse est tout tête. Elle ne sent que par sa tête, elle a un cœur dans la tête, une voix de tête, elle est friande par la tête. Nous nommons cette pauvre chose une laïs intellectuelle. Tu es joué comme un enfant. Si tu en doutes, tu en auras la preuve ce soir, ce matin, à l'instant. Monte chez elle, essaye de demander, de vouloir impérieusement ce que l'on te refuse. Quand même tu t'y prendrais comme feu monsieur le maréchal de Richelieu, néant ou placé. »
Armand était hébété. « La désires-tu au point d'en être devenu sot ?»«
Je la veux à tout prix, » s'écria Montriveau, désespéré.
« Eh bien, écoute, sois aussi implacable qu'elle le sera. Tâche de l'humilier, de piquer sa vanité, d'intéresser non pas le cœur, non pas l'âme, mais les nerfs et la lymphe de cette femme à la fois nerveuse et lymphatique. Si tu peux lui faire naître un désir, tu es sauvé.
Mais quitte tes belles idées d'enfant. Si l'ayant pressé dans tes serres d'aigle tu cèdes, si tu recules, si l'un de tes sourcils remue, si elle croit pouvoir encore te dominer, elle glissera de tes griffes comme un poisson et s'échappera pour ne plus se laisser prendre. Sois inflexible comme la loi. N'aie pas plus de charité que n'en a le bourreau. Frappe. Quand tu auras frappé, frappe encore. Frappe toujours, comme si tu donnais le knout. Les duchesses sont dures, mon cher Armand, et ces natures de femmes ne s'amollissent que sous les coups. La souffrance leur donne un cœur, et c'est œuvre de charité que de les frapper. Frappe donc sans cesse. Ah, quand la douleur aura bien attendri ses nerfs, ramolli ses fibres que tu crois douces et molles, fais battre un cœur sec qui, à ce jeu, reprendra de l'élasticité. Quand la cervelle aura cédé, la passion entrera peut-être dans les ressorts métalliques de cette machine à larmes, à manières, à évanouissement, à phrases fondantes. Et tu verras le plus magnifique des incendies, si toutefois la cheminée prend feu. ce système d'acier femelle aura le rouge du fer dans la forge. Une chaleur plus durable que tout, et cette incandescence deviendra peut-être de l'amour. Néanmoins, j'en doute. Puis, la duchesse vaut-elle tant de peine ? Entre nous, elle aurait besoin d'être préalablement formée par un homme comme moi. J'en ferai une femme charmante. Elle a de la race. Tandis qu'à vous deux, vous en resterez à l'ABC de l'amour. Mais tu aimes, et tu ne partagerais pas en ce moment mes idées sur cette matière. Bien du plaisir, mes enfants, ajouta Ronquerolles en riant et après une pause. Je me suis prononcé, moi, en faveur des femmes faciles. Au moins, elles sont tendres, elles aiment au naturel et non avec les assaisonnements sociaux. Mon pauvre garçon, une femme qui se chicane, qui ne veut qu'inspirer de l'amour ? Aimer, il faut en avoir une comme on a un cheval de luxe. Voir, dans le combat du confessionnal contre le canapé, ou du blanc contre le noir, de la reine contre le fou, des scrupules contre le plaisir, une partie d'échecs fort divertissante à jouer. Un homme tant soit peu roué, qui sait le jeu, donne le mat en trois coups, à volonté. Si j'entreprenais une femme de ce genre, je me donnerais pour but de... Il dit un mot à l'oreille d'Armand et le quitta brusquement pour ne pas entendre de réponse. Quant à Montriveau, d'un bond, il sauta dans la cour de l'hôtel de Langeais, monta chez la duchesse, et sans se faire annoncer, il entra chez elle, dans sa chambre à coucher. « Mais cela ne se fait pas, » dit-elle en croisant à la hâte son peignoir. « Armand, vous êtes un homme abominable. Allons, laissez-moi, je vous prie. Sortez, sortez donc. Attendez-moi dans le salon, allez. »« Cher ange, » lui dit-il, « un époux n'a-t-il donc aucun privilège ?»« Mais c'est d'un goût détestable, monsieur, soit à un époux, soit à un mari, de surprendre ainsi sa femme. » Il vint à elle, la prit, la serra dans ses bras. « Pardonne, ma chère Antoinette, mais mille soupçons mauvais me travaillent le cœur. »« Des soupçons, fi ! Ah, fi ! Fi donc !» Des soupçons presque justifiés. « Si tu m'aimais, me ferais-tu cette querelle ? N'aurais-tu pas été contente de me voir ? N'aurais-tu pas senti je ne sais quel mouvement au cœur ? Mais moi qui ne suis pas femme, j'éprouve des tressaillements intimes au seul son de ta voix. L'envie de te sauter au cou m'a souvent pris au milieu d'un bal. Ah ! Si vous avez des soupçons, tant que je ne vous aurai pas sauté au cou devant tout le monde, je crois que je serai soupçonné pendant toute ma vie. Mais auprès de vous, Othello n'est qu'un enfant. Ah ! Dit-il au désespoir, je ne suis pas aimé. Du moins en ce moment, convenez que vous n'êtes pas aimable. J'en suis donc encore à vous plaire ? Ah, je le crois. Allons, dit-elle d'un petit air impératif. Sortez, laissez-moi. Je ne suis pas comme vous, moi. Je veux toujours vous plaire. Jamais aucune femme ne sut, mieux que Madame de Langeais, mettre tant de grâce dans son impertinence, et n'est-ce pas à en doubler l'effet ? N'est-ce pas à rendre furieux l'homme le plus froid ? En ce moment, ses yeux, le son de sa voix, son attitude attestèrent une sorte de liberté parfaite qui n'est jamais chez la femme aimante, quand elle se trouve en présence de celui dont la seule vue doit la faire palpiter. Déniaisée par les avis du marquis de Ronquerolles, encore aidée par cette rapide intus susception dont sont doués momentanément les êtres les moins sagaces par la passion, mais qui se trouve si complète chez les hommes forts, Armand devina la terrible vérité que trahissait l'aisance de la duchesse, et son cœur se gonfla d'un orage comme un lac prêt à se soulever. « Si tu disais vrai hier, sois à moi, ma chère Antoinette, s'écria-t-il, je veux... D'abord, dit-elle en le repoussant avec force et calme, lorsqu'elle le vit s'avancer, ne me compromettez pas. Ma femme de chambre pourrait vous entendre. Respectez-moi, je vous prie. Votre familiarité est très bonne, le soir, dans mon boudoir, mais ici, point. Puis, que signifie votre « je veux » ?»«
Je veux ? » Personne ne m'a dit encore ce mot.
Il me semble très ridicule, parfaitement ridicule.
« Vous ne me céderiez rien sur ce point ?» dit-il.
« Ah ! Vous nommez un point la libre disposition de nous-mêmes ? Un point très capital, en effet, et vous me permettrez d'être en ce point tout à fait la maîtresse.
Et si, me fiant en vos promesses, je l'exigeais ?
Ah ! Vous me prouveriez que j'aurais eu le plus grand tort de vous faire la plus légère promesse. Je ne serais pas assez sotte pour la tenir, et je vous prierai de me laisser tranquille. »
Montriveau pâlit, voulut s'élancer. La duchesse sonna, sa femme de chambre parut, et cette femme lui dit en souriant avec une grâce moqueuse, « Ayez la bonté de revenir quand je serai visible. »
Armand de Montriveau sentit alors la dureté de cette femme froide et tranchante autant que l'acier. Elle était écrasante de mépris. En ce moment, elle avait brisé des liens qui n'étaient forts que pour son amant. La duchesse avait lu sur le front d'Armand les exigences secrètes de cette visite et avait jugé que l'instant était venu de faire sentir à ce soldat impérial que les duchesses pouvaient bien se prêter à l'amour, mais ne s'y donnaient pas, et que leur conquête était plus difficile à faire que ne l'avait été celle de l'Europe.
« Madame, dit Armand, je n'ai pas le temps d'attendre. Je suis, vous l'avez dit vous-même, un enfant gâté. Quand je voudrais sérieusement ce dont nous parlions tout à l'heure, je l'aurai. »
« Vous l'aurez ? » dit-elle d'un air de hauteur auquel se mêla quelque surprise.
« Je l'aurai. »
« Ah ! Vous me feriez bien plaisir de le vouloir. Pour la curiosité du fait, je serais charmé de savoir comment vous vous y prendriez. »«
Je suis enchanté, » répondit Montriveau en riant de façon à effrayer la duchesse, « de mettre un intérêt dans votre existence. »
« Me permettez-vous de venir vous chercher pour aller au bal ce soir ?»«
Je vous rends mille grâces, monsieur de Marsay vous a prévenu, j'ai promis. »
Montriveau salua gravement et se retira.
« Ronquerolles a donc raison, » pensa-t-il. « Nous allons jouer maintenant une partie d'échecs. » Dès lors, il cacha ses émotions sous un calme complet. Aucun homme n'est assez fort pour pouvoir supporter ces changements qui font passer rapidement l'âme du plus grand bien à des malheurs suprêmes. N'avait-il donc aperçu la vie heureuse que pour mieux sentir le vide de son existence précédente? Ce fut un terrible orage, mais il savait souffrir et reçut l'assaut de ses pensées tumultueuses comme un rocher de granit reçoit les lames de l'océan courroucé.
Je n'ai rien pu lui dire. En sa présence, je n'ai plus d'esprit. Elle ne sait pas à quel point elle est vile et méprisable. Personne n'a osé mettre cette créature en face d'elle-même. Elle a sans doute joué bien des hommes. Je les vengerai tous. Pour la première fois, peut-être, dans un cœur d'homme, l'amour et la vengeance se mêlèrent si également qu'il était impossible à Montriveau lui-même de savoir qui, de l'amour, qui, de la vengeance l'emporterait. Il se trouva le soir même au bal où devait être la duchesse de Langeais et désespéra presque d'atteindre cette femme à laquelle il fut tenté d'attribuer quelque chose de démoniaque. Elle se montra pour lui gracieuse et pleine d'agréables sourires. Elle ne voulait pas sans doute laisser croire au monde qu'elle s'était compromise avec monsieur de Montriveau. Une mutuelle bouderie trahit l'amour. Mais que la duchesse ne changea rien à ses manières, alors que le marquis était sombre et chagrin, n'était-ce pas faire voir qu'Armand n'avait rien obtenu d'elle? Le monde sait bien deviner le malheur des hommes dédaignés, et ne le confond point avec les brouilles que certaines femmes ordonnent à leurs amants d'affecter dans l'espoir de cacher un mutuel espoir. Et chacun se moqua de Montriveau qui, n'ayant pas consulté son cornac, resta rêveur, souffrant, tandis que monsieur de Ronquerolles lui eut prescrit peut-être de compromettre la duchesse en répondant à ses fausses amitiés par des démonstrations passionnées. Armand de Montriveau quitta le bal, ayant horreur de la nature humaine et croyant encore à peine à de si complètes perversités. S'il n'y a pas de bourreau pour de semblables crimes, dit-il en regardant les croisées lumineuses des salons où dansaient, causaient et riaient les plus séduisantes femmes de Paris, je te prendrai par le chignon du cou, madame la duchesse, et t'y ferai sentir un fer plus mordant que ne l'est le couteau de la grève. Acier contre acier, nous verrons quel cœur sera plus tranchant. Fin de la 19e section.
New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.